Mesdames et messieurs, chers étudiants, nous allons aujourd'hui faire un tout petit peu d'histoire locale. Nous nous transportons au 27 octobre 1553. C'est le jour où brûle, à Champelle, juste derrière l'hôpital actuel, le bûcher de Michel Servet. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Eh bien, principalement, d'avoir fait imprimer des livres blasphématoires contre la Trinité. La Trinité, Servet l'appelait en diable, il l'appelait un monstre à trois têtes. Et c'est ainsi que le Conseil de Genève a prononcé la sentence de mort que voici. À ses causes et autres justes, désirant de purger l'Église de Dieu de tel infectement et retrancher d'Icel tel membre pourri, ayant Dieu et ses saintes écritures devant nos yeux, disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, « Toi, Michel Servet, condamnons à devoir être lié et mené au lieu de Champelle, et là, devoir être à un pilotis attaché et brûlé tout vif avec ton livre, jusqu'à ce que ton corps soit réduit en cendres, et ainsi finira tes jours pour donner exemple aux autres qui tel cas voudraient commettre. » Servet entend donc cette sentence le 26 octobre et le lendemain, il est exécuté. Calvin, à Genève, a, d'une certaine façon, instruit le procès de Servet. Et il espère, par cette condamnation à mort, mettre un point final à ce que lui aurait pu appeler l'affaire Servet, le problème Servet. Ça a été, la suite de l'histoire va le montrer, une très grave erreur tactique, parce que l'affaire Servet ne fait que commencer au jour où brûle le bûcher de Champelle. Et en parlant ici d'erreur tactique de Calvin, eh bien, on répond en partie déjà à la question du titre, le bûcher de Servet, est-ce que c'est un crime ou une erreur ? Sans aller plus loin pour l'instant dans la question, je crois qu'il faut reconnaître que de tout point de vue, c'est une erreur. Parce que l'affaire Servet, on a précisément continué à en parler, et à en parler passablement, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, des voix s'élèvent contre Calvin. La plus véhémente est celle de Castellion, qui écrit un texte intitulé « Contre le libelle de Calvin ». Alors, c'est un texte que Castellion a écrit, je vous parlerai plus tard de Castellion, on va regarder simplement son texte, c'est une citation maintenant. C'est un texte qu'il écrit en 1554, donc dans les mois qui suivent l'exécution de Servet, et ce texte sera publié seulement bien après la mort de Castellion à Hollande en 1613. Donc au moment où Castellion meurt, le texte dont nous allons lire un extrait tout à l'heure n'existe que sous la forme d'un unique manuscrit au fond de son tiroir. Castellion ne se prononce pas sur le fond de la théologie de Servet. Après tout, ça ne le concerne pas. Il dit bien qu'il n'apprécie pas spécialement cette théologie de Servet, cette critique de la Trinité que fait Servet, mais il relève qu'en faisant tuer Servet, Calvin a attiré l'attention sur le martyr de la part du monde entier. Castellion relève avec bon sens que les livres de Servet étaient quasiment inconnus, mais, et là je le cite, « Maintenant que tu as brûlé l'homme avec ses livres, tout le monde a l'ardent désir de les lire. » Et effectivement, force est de reconnaître que si Servet n'avait pas été brûlé à Genève, qui aujourd'hui connaîtrait le nom de Servet, hormis quelques érudits qui parleraient de cet homme qui, au XVIe siècle, parmi beaucoup d'autres, a écrit des choses, s'est fait un nom, a eu une certaine renommée et puis est mort. Imaginons-le, est mort dans la misère, loin de tout, etc. Il y en a des dizaines comme lui. Seuls les historiens, seuls les érudits connaissent toute cette intelligentsia de l'humanisme européen. Le fait que Servet ait été condamné à mort à Genève lui a assuré une postérité qui n'est pas près de s'éteindre aujourd'hui. Alors, dans ce livre de Castellion, j'aimerais tout de suite aller au passage essentiel, et c'est la première citation. Plutôt que de garder ça en conclusion, on le donne pour commencer, et après nous allons essayer de remettre les choses dans leur contexte. Voici ce qu'écrit Castellion en latin. Je vous lis ici la traduction qu'a proposée il y a une dizaine d'années Étienne Barillier de ce beau texte. Tuer en homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer en homme. Constatation irréfutable. On ne défend pas une doctrine en tuant un homme, on ne fait que tuer un homme. Et Castellion continue, quand les jeunes voix tuèrent Servet, ils ne défendirent pas une doctrine, ils tuèrent un homme. La défense de la doctrine n'est pas l'affaire du magistrat. Qu'est-ce que le glaive peut avoir à faire avec la doctrine? C'est l'affaire des docteurs. L'affaire du magistrat, c'est de défendre le docteur, comme il défend le paysan, l'artisan, le médecin, n'importe qui d'autre, contre les injustices. C'est pourquoi, si Servet avait voulu tuer Calvin, c'est à bon droit que le magistrat aurait pris la défense de Calvin. Mais Servet a combattu avec des arguments et des écrits. Il fallait le combattre par des arguments et des écrits. Voilà donc le réquisitoire de Castellion. Cette condamnation de Servet est injuste, parce que Servet n'est pas un criminel de droit commun. Alors, nous reviendrons tout à l'heure sur Castellion, un tout petit peu plus longuement, mais l'historien, à ce stade, est en présence d'un problème méthodologique que j'essaye d'exposer en trois points de la façon suivante. Premièrement, il faut reconnaître d'entrée de jeu que la position de Castellion nous est agréable et que celle de Calvin, à l'inverse, nous est détestable. Il n'y a pas de honte à le reconnaître. On ne va pas chercher à se dire « je suis au-dessus de la mêlée, je ne prends parti ni pour Castellion ni pour Calvin ». Nous tous, j'imagine, on pourrait procéder à un vote à bulletin secret, mais je pense que le résultat serait assez évident. Nous tous qui vivons en 2009 sommes plus proches de la position de Castellion que de celle de ceux qui l'ont condamné. Alors voilà le premier point. Il faut reconnaître cela. On ne fait pas de l'histoire dans lieu neutre. On est toujours à un endroit particulier. Deuxième point, problème de méthode, c'est que tout ce que nous avons à faire, ça va être de remettre cet épisode, ce fait, l'exécution de Servet, dans son contexte. Et si l'on doit remettre les choses dans leur contexte, c'est précisément pour éviter cela dont je vous ai déjà parlé à quelques reprises, le péché capital de l'historien, qu'est l'anachronisme. Il n'y a rien de pire en histoire que de prendre un épisode à une époque et de le juger avec les critères d'une autre époque. De dire que saint Augustin ne respecte pas les droits de l'homme quand il dit telle ou telle chose, ça n'a pas la moindre signification. Alors, nous allons tenter de remettre dans son contexte l'exécution de Servet. Et ce contexte va être un contexte très large, puisque nous allons remonter jusqu'à la fin de l'Antiquité. Et puis, c'est une règle de méthode aussi, l'historien, quand bien même il doit bel et bien admettre qu'il est plus proche de telle position que de telle autre, l'historien doit chercher à comprendre. L'historien n'est pas le juge. En la circonstance, on ne demande pas à l'historien ni de disculper Servet, ni d'inculper ceux qui l'ont condamné. Sa position est différente, il cherche à comprendre, il peut émettre sa sympathie, mais le travail de l'historien n'est pas le travail du juge. En histoire du XVIe siècle, il y a rarement des confusions. Mais en histoire contemporaine, cela peut arriver. Et quand un tribunal, par exemple le tribunal de La Haye, convoque des historiens pour leur demander ce qui s'est passé à Sarajevo en 1994, eh bien, les historiens sont très embarrassés et certains ont dit « ben non, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de chercher à comprendre. Je ne veux ni inculper ni disculper. Je suis historien, je ne suis pas juge. Et si le juge veut lire mon livre d'histoire, qu'il le fasse, mais je n'accepte pas d'être convoqué comme témoin à charge ou à décharge devant le tribunal. » Donc, l'œuvre de l'historien, même si par certains côtés elle s'approche de l'œuvre du juge, n'est pas une œuvre de jugement. Alors, pour le contexte, regardons globalement ce que j'ai appelé ici un millénaire d'intolérance. Un millénaire, ça fait beaucoup dans l'histoire du christianisme, qui en compte deux à ce jour. Dire que nous allons voir maintenant un trait fondamental de l'histoire du christianisme qui traverse à peu près 12 siècles en Occident. Ce qui est en jeu, c'est la tolérance religieuse. C'est aussi la liberté de conscience. Et la première chose qu'il faut reconnaître, d'entrée de jeu, sans s'en cacher le moins du monde, c'est que le christianisme, pris globalement, entre le 5e et le 18e siècle, n'est pas tolérant. D'ailleurs, le mot tolérance est un mot négatif. C'est un concept qui n'est jamais élogieux. Regardez, on dit encore aujourd'hui que l'on tolère ou qu'on ne tolère pas tel médicament. Mais ça ne veut pas dire qu'on aime ce médicament. Si je tolère un médicament, ça n'est pas encore une raison d'aller me gaver de ce médicament. Je tolère la chose parce que c'est un moindre mal, mais je ne l'aime pas. C'est toujours quelque chose de négatif que l'on tolère. Eh bien, quand on parlera de tolérance, il y aura, à l'époque moderne, c'est-à-dire au XVIe siècle précisément, toujours dans le contexte cette idée négative. On tolère quelque chose qui est un mal. On ne tolère jamais un bien, on tolère toujours un désagrément, un désavantage, un mal. Quand je vous parle de cette époque qui va jusqu'au XVIIIe siècle, c'est que au XVIIIe, avec les Lumières, apparaît une notion nouvelle, ou se développe une notion nouvelle, parce qu'on en voit les prémices ici et là auparavant, c'est la notion de liberté de conscience. Jusque-là, il n'y a pas de liberté de conscience. Au XVIe siècle, ce concept de liberté de conscience n'existe pas. On attendra les Lumières du XVIIIe pour le voir émerger. Je vous propose trois étapes. La première, c'est un cas sur lequel j'avais mené quelques études il y a quelques années, la toute première condamnation à mort d'un hérétique en régime chrétien. Alors, cet hérétique s'appelait Priscillien, c'était un espagnol. Il a été condamné à mort en 385 ou 386, donc on est encore en plein dans l'Empire romain, et cet homme a le triste privilège d'avoir été le premier chrétien condamné à mort par d'autres chrétiens pour une question d'opinion. Il y avait eu auparavant des chrétiens condamnés à mort par des Romains non chrétiens. Ça s'appelait des persécutions. Nous ne sommes plus en 386 dans l'ère des persécutions. Eh bien, cet homme Priscillien, c'est le premier à se faire condamner à mort. Pourquoi ? Très difficile à dire. C'est un leader d'un mouvement ascétique qui dit des choses un peu bizarres sur la Trinité. Ça correspond pas au concile de Nicée. On sait qu'il s'intéresse à l'astrologie, c'est un mauvais point. On sait qu'il lit des textes que la tradition considère comme étant apocryphes, c'est pas un bon point non plus. Et puis surtout, on lui reproche d'organiser des retraites spirituelles la nuit dans des lieux à l'écart avec des hommes et des femmes. Alors, je vous laisse imaginer comment cette chose-là pouvait être perçue, mais toujours est-il qu'on l'accuse de tous les maux, de toutes les dépravations. Et puis, c'est ainsi que cet homme se fait condamner. Cette exécution de Priscillien a d'abord soulevé la désapprobation des théologiens. Ambroise de Milan en entend parler et puis s'insurge contre ce fait inouï. Comment se fait-il que des chrétiens condamnent à mort un chrétien qui n'est pas un criminel de droit commun? Mais par la suite, il faut bien reconnaître que l'unanimité s'est faite assez rapidement pour applaudir à cette condamnation de Priscillien. Vous voyez, au début du 5e siècle, Jérôme dit que ben voilà, il n'y a plus rien à ajouter. Cet hérétique a été condamné par le glaive séculier et par l'autorité de tout l'univers. Donc c'est bien, il a été condamné. Et puis plus tard, au milieu du 5e siècle, c'est le pape Léon le Grand qui se félicitera dans un texte de ce qu'on ait anéanti l'hérétique priscillien. Donc l'idée de mettre à mort quelqu'un pour sa doctrine considérée comme hérétique est en train de faire son chemin. Jusque-là, les hérétiques n'étaient pas condamnés à mort. Qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on les excommuniait. Vous voyez, dans une communauté chrétienne de l'époque de la persécution, vous faites partie d'une communauté, vous dites des choses qui ne plaisent pas à la communauté a le droit de vous renvoyer, de dire, ben voilà, vous ne faites plus partie de la communauté, c'est ce qui s'appelle formellement l'excommunication. Ou alors, par la suite, on pouvait exiler les hérétiques. On le renvoie dans une autre région, dans une autre ville. Mais toutes ces choses-là étaient en principe réversibles. C'est-à-dire que l'hérétique pouvait toujours se repentir et puis revenir. Avec la condamnation à mort, vous voyez bien qu'on franchit un point de non-retour parce qu'on opère un acte qui, par essence, n'est plus réversible. J'avais entendu, et ça c'est un grand souvenir que j'ai du droit, enfin, j'étais enfant, j'avais entendu le procureur général de la République de l'époque, Raymond Foy, quelques-uns parmi vous l'ont probablement connu, Raymond Foy qui disait « Si la peine de mort était rétablie à Genève, je démissionnerais aussitôt de mon poste de procureur général parce que je considère que la justice humaine n'a le droit d'infliger que des peines qu'elle pourrait ensuite lever. » Vous voyez, on peut condamner quelqu'un à une peine de prison parce que les humains ont la possibilité, si une erreur judiciaire s'est avérée, de faire ressortir la personne de la prison. Avec la condamnation à mort, pas de retour possible. Donc, il disait, je démissionnerai de mon poste si, par malheur, la peine de mort devait être décidée à Genève. Avec Priscillien, c'est bel et bien d'une condamnation à mort qu'il s'agit. Et ce qu'on voit dans la condamnation de Priscillien, c'est un certain nombre d'éléments qui vont jalonner toute l'histoire de ces condamnations d'hérétiques dans la chrétienté occidentale en particulier. J'aimerais relever 5 points et je vais chaque fois montrer en parallèle avec l'affaire de... Avant d'envisager ce qui va occuper le gros morceau de cette seconde heure, le combat pour la tolérance, j'aimerais vous proposer de revenir sur la condamnation de Servet. Après tout, je n'ai pas parlé de Servet du tout, parce que c'est sa condamnation qui importait. De la même façon, on peut parler de l'affaire Dreyfus sans s'intéresser à ce qu'a été le capitaine Dreyfus lui-même, mais plutôt au cas que représente cette fausse accusation menée contre quelqu'un. Michel Servet, étant contemporain de Calvin, il pourrait tout à fait d'ailleurs être né lui aussi en 1509. C'est un Espagnol, un humaniste. Comme les humanistes, souvent, l'homme s'intéresse à beaucoup de choses. Il a publié des livres en géographie et surtout, il est médecin. Le plus grand succès de librairie de Michel Servet, c'est un livre qui n'a rigoureusement rien à voir avec la théologie, un ouvrage qui va se faire réimprimer à plusieurs reprises de son vivant et qui est un traité sur les sirops. Michel Servet, comme grand spécialiste des sirops, c'est comme ça qu'à son époque, on pouvait le connaître. En plus de cela, il est attiré par la réforme. Et c'est ainsi qu'il va s'intéresser aux écrits des réformateurs et apprécier le combat que mènent les réformateurs pour revenir aux sources, revenir à l'Évangile. Seulement, il va lui aussi lire l'Évangile et se distancer des réformateurs en considérant qu'ils ne vont pas assez loin, qu'ils ne vont pas jusqu'au bout dans leur démarche de retour à l'Évangile, en cela qu'ils continuent à confesser le dogme de la Trinité, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, alors que ce dogme lui-même n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament. C'est ainsi qu'en 1531 déjà, le tout jeune Servet, c'est un jeune homme d'à peine plus de 20 ans à cette époque, écrit un livre intitulé « Les erreurs de la Trinité ». À ce moment-là, Calvin n'existe pas encore dans le décor théologique. La première publication théologique de Calvin ne paraîtra que 5 ans plus tard, en 1536. « Les erreurs de la Trinité ». Bien. Son livre a un tout petit succès, on le lit ici ou là, et assez rapidement, il tombe dans l'oubli. Par la suite, Calvin apparaît. Et la production théologique de Calvin va connaître un succès autrement plus fulgurant que celle de Michel Servet. Servet lira les textes de Calvin, et puis va entrer en contact épistolaire avec le réformateur pour critiquer un certain nombre de ces choses. En particulier, lui dire « Mais sur la question de la Trinité, chers collègues, vous n'allez pas suffisamment loin. » Calvin va commencer par répondre à Servet. Servet lui écrira des lettres de plus en plus insultantes. Calvin, pour mettre court à la conversation, lui enverra une nouvelle édition de sa propre institution de la religion chrétienne. « Non, mais cher ami, je vous envoie ce livre. Lisez-le, ça vous fera le plus grand bien. » Servet, effectivement, le lit, mais commet l'imprudence de le renvoyer à Calvin annoté. Et dans la marge, Servet écrit à tout moment « Insanité, il n'a rien compris, quel imbécile !» Et Calvin reçoit ce livre de Servet. Comme le dit, c'est une expression que j'emprunte à Vincent Schmitt, mon ami qui est pasteur de Saint-Pierre maintenant, et qui vient d'écrire un petit livre sur Michel Servet. Comme le dit Vincent Schmitt, « Quand on cherche Calvin, on finit par le trouver ». Et effectivement, Servet cherche Calvin et il va finir par le trouver. Il va écrire un nouveau livre contre Calvin, dans lequel il va reprendre toutes ses accusations contre la Trinité. Ce livre, aucun imprimeur ne voudra courir le risque de l'imprimer publiquement. Évidemment, l'imprimeur lui-même risque gros. Si on découvre ce bouquin dans la boutique de l'imprimeur, tout le matériel typographique se fait saisir et l'imprimeur est au chômage. Donc, Servet a du mal à trouver un imprimeur et finalement, quelqu'un accepte clandestinement de publier quelques exemplaires de son livre à compte d'auteur. Servet doit tout payer lui-même et c'est lui-même qui va s'occuper de la diffusion. Et c'est ainsi que ce livre va circuler ici et là, tombé entre les mains des inquisiteurs. À Vienne, dans le Dauphiné, Servet se fait arrêter et il est envoyé à Lyon pour qu'on examine son cas. Et là, les inquisiteurs lui montrent le livre en lui disant « Vous avez écrit cette chose-là ». Et Servet dit « Non, pas du tout. D'ailleurs, mon nom ne figure pas dans le livre. Je n'ai rien à faire avec cet auteur. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas écrit cela ». L'inquisiteur est embarrassé parce que face à quelqu'un qui nie avoir écrit telle chose, il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais on garde par précaution Servet en prison. Et voilà que l'inquisiteur reçoit le document qui va lui permettre de condamner Servet. Ce document, c'est des lettres manuscrites, écrites par Servet, dans lesquelles on retrouve les mêmes mots que dans son livre. À partir de là, la preuve est faite. Il y a tout de même un problème. C'est que ces lettres manuscrites, Servet les avait bien écrites et il les avait envoyées à Jean Calvin à Genève. D'où la question, comment se fait-il que le courrier personnel de Calvin se retrouve à Lyon entre les mains de l'Inquisition? Il se trouve qu'à Lyon, il y avait un marchand qui avait lui-même un parent, un cousin à Genève, et on sait que c'est ce marchand, il s'appelait Hamet, qui a remis la liasse de la correspondance de Servet entre les mains de l'inquisiteur. De toute évidence, il avait reçu ça de la part de son cousin de Genève et son cousin de Genève était un familier de Calvin. Calvin a toujours été très trouble sur cette question-là. Servet l'a évidemment accusé de l'avoir livré à l'inquisiteur en le trahissant, en envoyant sa propre correspondance, et Calvin ne répondra pas directement à cette question. Certains historiens calvinologues et calviniens de surcroît ont tout fait pour disculper Calvin. C'était il y a un siècle, le grand Émile Doumergue en particulier, qui a essayé de trouver toutes sortes d'arguments pour montrer que Calvin n'avait pas envoyé sa correspondance à l'Inquisition. Aujourd'hui, la plupart des historiens qui examinent ce cas donnent bel et bien raison à Servet et pas à Calvin. Il semble bien que Calvin, pour faire en sorte que Servet soit condamné, ait transmis, dans un acte de belle solidarité écuménique entre la Genève réformée et puis l'Inquisition française, ait transmis des documents compromettants pour Servet. Alors, par la suite, Servet est en prison, mais il va parvenir à s'échapper. La prison n'est pas très très bien gardée. À la vérité, les prisonniers ont le droit de faire quelques pas dans un petit jardin attenant. Servet, le matin, de bonne heure, s'habille et remet sa chemise de nuit par-dessus ses habits. Il demande à faire quelques pas dans le jardin. On croit que l'homme veut simplement prendre l'air puisqu'il est en chemise de nuit, ce n'est pas trop dangereux. Aussitôt qu'il est dans le jardin, il franchit un mur, s'échappe et puis disparaît dans la nature. Est-ce qu'on l'a laissé s'échapper volontairement? On n'en sait rien à la vérité. Ce qu'on sait, c'est que pendant quelques semaines, Servet n'est nulle part, on ne trouve sa trace nulle part, et que tout à coup, au mois d'août de l'année 1553, il est reconnu à Genève. Servet avait un ennemi, Calvin. Et voilà qu'il se trouve à Genève. Là, il est reconnu par quelqu'un qui dit « Mais cet homme-là pourrait bien être Servet ». Il est aussitôt arrêté, on constate que c'est bel et bien Servet, et la machinerie du procès va se mettre en marche. Pour la première fois, Servet rencontrera Calvin en chair et en os, dans des conditions évidemment difficiles pour Servet, parce qu'il est dans sa prison, et que Calvin va le sommer de se rétracter. Servet ne voudra pas le faire, tout ce qu'il obtiendra du petit conseil, c'est d'avoir de quoi écrire, et il écrira un certain nombre de lettres, de documents pour se justifier. Mais le procès va être instruit. Calvin va souligner auprès du Conseil de Genève la grièveté des chefs d'accusation qui pèsent sur Servet. Calvin va écrire aux églises sœurs de Bâle, de Berne, de Zurich, pour leur demander d'intervenir auprès du Conseil. Et effectivement, ces églises écrivent toutes auprès du Conseil de Genève pour lui dire « L'homme que vous avez arrêté est très dangereux pour la foi évangélique. À votre place, nous le condamnerions à mort. » Et c'est ainsi qu'au mois d'octobre, je vous l'ai dit, eh bien, Servet est condamné et exécuté. Cette exécution est un épisode crucial. Bon, d'abord pour Servet, bien évidemment, mais c'est un épisode crucial dans l'histoire de la tolérance en Europe. Dans l'œuvre de Calvin, cet épisode n'est pas si important que cela. Calvin est toujours en train de faire plein de choses à la fois. Il prépare une ou deux prédications par semaine. Il y en a en tout 4 ou 5 000, je crois, qu'il aura délivré à Genève. Il écrit des commentaires théologiques. Il donne des cours à l'Académie. Il va aux séances du consistoire. Il écrit des traités. Et puis, il maintient une correspondance avec un certain nombre de personnages qui sont répartis un peu partout dans l'Europe. La correspondance active de Calvin se monte à plusieurs milliers de lettres que chaque jour il expédie en France, en Italie, jusqu'en Hollande, en Pologne ou en Angleterre. Donc Calvin est un homme qui produit énormément. Un grand penseur, un des plus grands théologiens de l'histoire du christianisme, si on devait faire une sorte de hit-parade des théologiens, il serait incontestablement dans le peloton de tête des 10 premiers. Et il est là, dans cette toute petite ville de Genève. Voilà que Servet s'en prend à lui, l'égratigne. Le coup de patte de Calvin sera terrible. Et une fois que Servet est condamné, Calvin va laisser tomber la chose, ou espère pouvoir laisser tomber la chose et passer à d'autres choses. Vous voyez que Calvin, je vous l'ai déjà dit, a complètement minimisé, sous-estimé les répercussions qu'allait avoir cette condamnation de Servet. Alors, je posais la question de savoir s'il fallait parler d'un crime. Pour parler d'un crime, il faut se fonder sur le droit qui est en vigueur à l'époque de Calvin. Ce que tout le monde reconnaît, c'est que le pouvoir civil peut intervenir contre celui qui met la foi en danger. Et ça n'est pas autre chose qu'il s'est passé à Genève en 1553. Ça n'est pas autre chose qu'il se passait à Zurich quand on noyait les anabaptistes, vous savez, ces gens qui commettaient ce crime effroyable qui consistait à dire que les enfants ne devaient pas être baptisés. On devait être baptisé seulement à l'âge adulte. Eh bien, ces anabaptistes, disait-on à Zurich, dans le milieu de Zwingli, de Bullinger, ces gens qui interdisent à un enfant l'accès au ciel au cas où il viendrait à mourir, il faut les faire mourir eux-mêmes par cela même qui est le lieu de leur faute, à savoir l'eau du baptême, on les fait mourir en les noyant dans la limate. Donc plusieurs dizaines d'anabaptistes ont été noyés à Zurich pour délit d'opinion. À Genève, de la même façon, ce n'est pas un anabaptisme, un antitrinitaire qui est condamné, Servet, en 1553. Ce qui va se déclencher dépasse, je vous l'ai dit, ce que Calvin aurait pu imaginer. C'est ce que nous allons voir dans notre quatrième partie, le combat pour la tolérance. Première réaction, celle d'un ami de Calvin, un magistrat bernois qui s'appelle Nicolas Zurlinden, et qui intervient en écrivant à Calvin pour lui dire, évidemment, ce Servet est tout à fait désagréable, antipathique, et je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais, dit Zurlinden, je suis du nombre de ceux qui souhaitent voir l'emploi du glaive toujours plus rare pour la répression des erreurs involontaires ou même réfléchies qui portent atteinte à la foi chrétienne. L'emploi du glaive ne convient pas pour redresser une erreur. La voix qui va surtout se faire entendre va être celle de Castellion. Alors, c'est de lui qu'il faut parler maintenant, et puis dans la foulée, nous allons évoquer l'histoire de ce combat pour la tolérance avec deux philosophes, l'anglais John Locke, le français Pierre Bayle, dans la suite du XVIIe siècle. Castellion, Jean Castellion, étant était un proche de Calvin. C'est à Strasbourg qu'il avait fait la connaissance de Calvin, Strasbourg où Calvin avait passé 3 années, de 1538 à 1541. Quand il avait été chassé de Genève, il avait pris la route de Strasbourg. Et c'est à Strasbourg que les magistrats de Genève sont allés le rechercher et l'ont supplié de revenir à Genève parce qu'on avait besoin de lui. Eh bien, à Strasbourg, Calvin a rencontré Castelion. Revenant à Genève, il a fait venir Castelion avec lui. Et c'est ainsi que Castelion a été prof au collège. Alors, le collège actuel n'existait pas encore. Il s'agissait du collège de Rives. La direction de ce collège a été confiée à Castelion. On ne l'a pas accepté au sein de la Compagnie des Pasteurs parce qu'on se méfiait un peu de lui. Il avait sur certains textes bibliques des idées saugrenues, en particulier considérait que le Cantique des Cantiques, ce chant d'amour aux pages plus érotiques les unes que les autres, ne devrait pas tout à fait avoir sa place dans la Bible. Bon, pourtant, comme il est dans la Bible, on n'acceptait pas l'idée de devoir retrancher ce texte de l'Écriture. C'est ainsi que Castelion sera chassé de Genève. Il va lui-même traduire toute la Bible en français et puis il va survivre petitement comme correcteur d'imprimerie à Bâle. On a ici un destin tragique d'un grand humaniste, un grand penseur du XVIe siècle qui, en son temps, est quasiment inconnu. Castelion vit dans une imprimerie à un tout petit salaire. Il mourra en 1563 à l'âge de 48 ans. Vous voyez, Calvin n'a pas vécu très longtemps, 55 ans. Eh bien, Castelion est né après Calvin et il mourra avant Calvin. Castelion n'est pas opposé à la peine de mort. Pas davantage que Thomas d'Aquin, dont nous parlions tout à l'heure. Il ne s'oppose au fait que le criminel soit condamné à mort. Et d'ailleurs, il distingue ceux qui sont passibles du châtiment, les blasphémateurs, les athées, les gens sans religion, qu'il faut livrer aux magistrats, dit-il, parce qu'ils n'ont pas leur place dans la société. Vous voyez, l'athée, selon Castelion, est quelqu'un qu'on ne peut pas tolérer. Nous verrons tout à l'heure, chez Locke, une position tout à fait analogue. En revanche, dit Castelion, l'hérétique, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre la foi. C'est quelqu'un qui énonce des arguments et à qui il faut, le cas échéant, opposer d'autres arguments. C'est ainsi qu'il s'en prend à Calvin, c'est ainsi qu'il s'en prend aux Genevois, et je vous renvoie au texte que nous avions lu tout à l'heure. Castelion vit donc à Bâle, dans la misère, et assiste désespéré à la montée de la violence religieuse. C'est un homme qui publie en 1562 un texte, et il le publie anonymement, dans lequel il tente une sorte de diagnostic de ce qui ne va pas dans la France. Il appelle son texte « Conseil à la France désolée ». La France désolée au sens fort du XVIe siècle, la France qui va mal. Ce n'est pas l'expression d'aujourd'hui « je suis désolé d'être arrivé en retard ». C'est la France désolée, la France qui est ravagée par la maladie. Or, s'il y a une maladie, avant de soigner, il faut commencer par poser un diagnostic. Et c'est ce que propose Castelion dans ce texte de 62. Nous allons le lire ici parce que nous voyons se déployer la pensée de Castelion qui est tout à fait en ligne avec ce qu'il dit à propos de Servet. « Je trouve que la principale et efficiente cause de ta maladie, toi, la France, c'est-à-dire de la sédition et guerre qui te tourmente, est forcement de conscience. Et je pense que si tu y penses bien, tu trouveras assurément qu'il est ainsi. Le forcement des consciences, on comprend très bien ce que ça veut dire, c'est la contrainte en matière de conscience. Il y a une maladie, discerne Castelion, cette maladie est due au fait qu'on contraint les consciences. On veut contraindre quelqu'un contre sa conscience à croire quelque chose. Il y a des faux remèdes. Le remède que tes enfants, ô France, cherchent, c'est premièrement de se guerroyer, tuer, meurtrir les uns les autres et qui, Pizet, d'aller quérir des nations étrangères, argent et gens, afin de mieux résister, ou pour mieux dire, afin de mieux se venger de leurs frères. Voilà un remède. Si vous avez deux partis religieux en présence, une méthode pour rétablir la paix religieuse, c'est d'anéantir totalement la partie adverse. Alors, si l'une des deux parties seulement préconise cette méthode et puis que l'autre dit, ben d'accord, nous sommes tout à fait disposés à nous laisser anéantir, ben, il n'y aura pas de guerre des religions. Un clan religieux va disparaître, tué par l'autre. Ça n'est pas la solution que préconise Castelion, pour la bonne et simple raison que ça n'arrive jamais qu'un parti accepte de se laisser anéantir par l'autre. Et que si l'un des deux cherche par la violence à l'emporter sur l'autre, l'autre cherchera par la violence à l'emporter sur le premier. Et c'est la guerre civile, précisément cette guerre civile qui va ravager la France dès cette année 1562 et pendant une petite quarantaine d'années. Le second remède que l'on cherche, c'est de forcer les consciences les uns des autres. Contraindre l'autre à croire ce que je crois vrai. Or, ces remèdes, dit Castelion, sont de faux remèdes. Ils ajoutent au mal plus qu'ils ne concourent à le soigner. Il faut donc, dit-il, dans la France d'aujourd'hui, renoncer à forcer les consciences et accepter à l'inverse la liberté de la conscience religieuse. Autant vous le dire tout de suite, Castelion, écrivant ce texte en 1562, ça a été la voix de Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Il n'a pas été écouté. Et c'est seulement bien plus tard, au XVIIe siècle, mais après 8 guerres de religion en France, après une période de 40 ans de troubles, à laquelle Henri IV mettra fin en 1598 par l'édit de Nantes, c'est après une période de 40 ans qu'on reviendra à ce texte et qu'on se dira, ben tiens, oui, si nous avions écouté ce que disait Castelion en 1562, les choses se seraient passées autrement. Donc voilà cet homme qui prêche pour la liberté de la conscience individuelle, mais dont il ne faut pas surestimer l'importance en son temps. Les contemporains connaissent à peine Castelion. C'est un homme qui, contrairement à Calvin, à Théodore de Bèze, n'a pas beaucoup de moyens pour diffuser ses écrits, à tel point que le petit livre qu'il a écrit contre Calvin lui-même ne l'a jamais vu. Ce livre est resté manuscrit chez Castelion, et ensuite il partira en Hollande, d'où il sera imprimé, je vous le disais, en 1613. Donc Castelion n'a pas d'écho en son temps. C'est un homme qui est un peu en dehors de ce XVIe siècle, comme une météorite, et on commet peut-être une erreur due à une sorte d'illusion d'optique quand on oppose Calvin à Castelion. Calvin est un homme connu, un homme qui a beaucoup écrit, un homme qui est reconnu autour de lui et qui dispose d'un réseau immense. Castelion, c'est au contraire celui qui vit misérablement à Bâle, l'homme qui peine à se faire entendre et qui essaye désespérément de dire qu'il ne faut pas violenter la conscience d'autrui. Avec Castelion, on peut voir se dessiner la ligne qui va aller jusqu'à la défense de la tolérance religieuse et jusqu'à la défense de la liberté de conscience. C'est dans cette ligne qu'un siècle plus tard, il faudra situer John Locke, le grand philosophe anglais. En 1686, Locke écrit une lettre sur la tolérance. Et vous allez voir très vite que nous restons sur notre faim quand nous lisons cela, et nous passerons ensuite à Pierre Bayle qui va plus loin, exactement la même année que Locke. Dans sa lettre sur la tolérance, Locke commence par une réflexion qui est toute britannique dans son style. « J'avoue, dit-il, qu'il me paraît fort étrange, et je ne crois pas être le seul de mon avis, qu'un homme qui souhaite avec ardeur le salut de ses semblables les fasse expirer au milieu des tourments, lors même qu'ils ne sont pas convertis. Mais il n'y a personne, je m'assure, qui puisse croire qu'une telle conduite parte d'un fond de charité, d'amour ou de bienveillance. Je m'étonne, vous l'avez entendu, je m'étonne qu'on puisse souhaiter ardemment, charitablement le salut de son semblable et que pour obtenir ce salut, on soit prêt à faire mourir l'autre au milieu des tourments, qu'on soit prêt à le supplicier et à le mettre à mort. Donc cela, dit Locke, non, nous n'en voulons pas, il faut plaider pour la tolérance religieuse parce que la tolérance, dit-il, est une exigence évangélique. Cette tolérance va impliquer qu'on acceptera la pluralité des cultes. Et John Locke va énumérer ces différents cultes. Il y a des presbytériens, il y a des arminiens de Hollande qui ne se sont distingués des calvinistes traditionnels en matière de prédestination. Il y a différents courants religieux qu'il faut tous admettre les uns à côté des autres. Il y a néanmoins des exceptions. Et Locke n'accepte pas tout, en particulier deux exceptions qu'il s'agit de mentionner ici. C'est la lettre E que je vous ai donnée. Une église dont tous les membres, du moment où ils y entrent, passent ipso facto au service et sous la domination d'un autre prince, n'a nul droit à être toléré par le magistrat, puisque celui-ci permettrait alors qu'une juridiction étrangère s'établit dans son propre pays et qu'on employât ses sujets à lui faire la guerre. Ne serait-il pas ridicule quand Mahométan prétendit être le bon et fidèle sujet d'un prince chrétien, s'il avouait d'un autre côté qu'il doit une obéissance aveugle au moufti de Constantinople, qui est soumis lui-même aux ordres de l'empereur ottoman, dont la volonté lui sert de règle dans tous les faux oracles qu'il prononce sur le chapitre de sa religion. Voyez cet exemple. Le Mahométan qui serait en Angleterre et qui dit « Je suis sous les ordres du grand moufti de Constantinople, lequel obéit à l'empereur ottoman », eh bien ça, on ne pourrait pas l'admettre. Mais vous voyez bien ce que veut dire Locke là derrière, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Mahométans en Angleterre en 1686 qui disent obéir au grand moufti de Constantinople. Ce qu'il a en ligne de mire ici, sans les désigner, ce sont bien évidemment les catholiques romains. Alors, acceptons, dit-il, dans un esprit de tolérance religieuse, toutes les dénominations chrétiennes, acceptons même les juifs, mais n'acceptons pas, dit Locke, les catholiques romains parce qu'ils sont au service d'un souverain étranger. Et voyez que cette tolérance religieuse a ses limites. On est à l'époque où l'Irlande a été colonisée par les Britanniques. Et vous voyez qu'en Britannique, enfin en Anglais, qui défend la tolérance, mais qui exclut du cercle des bénéficiaires de la tolérance, les catholiques romains, ne sera pas accueilli avec une bienveillance particulière du côté de l'Irlande. Et c'est ainsi qu'en Irlande, les Anglais ont établi des règles par lesquelles ils essayaient de favoriser le protestantisme, en particulier, l'une de ces règles, c'est une règle de succession qui avait été inventée par les colons anglais en Irlande, qui accordait l'héritage du père uniquement aux enfants qui s'étaient convertis au protestantisme. C'est-à-dire que si dans une famille de quatre frères, les quatre restent catholiques, eh bien, ils se partagent l'ensemble des biens du papa. Mais si le père paysan meurt, laisse quatre fils, et que parmi ces quatre fils, l'un se convertit au protestantisme, eh bien, c'est lui qui reçoit la totalité de l'héritage paternel. Voilà un argument de propagande religieuse assez efficace. Eh bien, ça peut s'inscrire, d'une certaine façon, dans cette ligne que défend ici Locke. Locke, plus loin, va dire qu'il n'y a pas de tolérance non plus pour ceux qui nient l'existence d'un Dieu. Ces gens-là ne doivent pas être tolérés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas leur place dans la société. Les promesses, les contrats, les serments et la bonne foi, qui sont les principaux liens de la société civile, ne sauraient engager un athée à tenir sa parole. Voyez bien de quoi il s'agit. Nous prêtons serment, nous signons un contrat, nous testons devant notaire en précisant « au nom de Dieu ». Et c'est ce « au nom de Dieu » qui constitue le caractère sacré de cet acte, de cette promesse, de ce contrat. Alors, si vous avez en face de vous un partenaire athée qui dit « moi, vous savez, la religion, je n'y crois pas, je suis parfaitement athée, je ne suis d'aucun bord religieux, mais je suis prêt à signer ce contrat au nom de qui, dites-vous, de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, très volontiers. » Mais cet homme-là, sa foi ne peut pas être considérée et il ne peut pas être admis dans une société qui va se fonder sur des contrats, sur la bonne foi, sur une foi commune en Dieu. Et c'est ainsi que la tolérance de Locke, vous le voyez, a des limites qui sont finalement relativement étroites. Ceux qui professent l'athéisme, dit-il plus loin, n'ont aucun droit à la tolérance sur le chapitre de la religion, puisque leur système les renverse toutes. puisqu'ils ne veulent pas des religions, eh bien, notre société qui est religieuse ne voudra pas d'eux. Voilà une position qui est, encore une fois, dans la ligne de celle de Castelion. Locke n'aurait jamais cautionné la condamnation à mort de Servet. Mais Locke n'aurait pas accepté la théie, pas davantage que Castelion. Il y a, si l'on revient sur le continent, une autre position qui est beaucoup plus radicale, c'est celle de Pierre Bayle. Bayle, philosophe français, et on prononce son nom maintenant de cette façon-là. Quand j'étais étudiant, j'entendais toujours parler de Pierre Bayle. On prononce plutôt Bayle, puisqu'il vient du Béarn, exactement comme François Bayrou. On ne dit pas Bayrou, mais les Béarnais nous disent bien qu'il faut dire Bayrou. C'est un nom qui vient du même lieu. Donc Pierre Bayle est un homme qui écrit un texte important la même année exactement que Locke. 1686, pour la France, c'est l'époque de la révocation de l'édit de Nantes. J'ai mentionné tout à l'heure Henri IV, 1598. Édit de Nantes qui met fin aux guerres de religion en France. Un édit par lequel le roi accorde aux catholiques le droit d'établir à nouveau leur culte sur tous les territoires du royaume, en tout lieu. Non, les catholiques. Je reprends la phrase, permettez. Il y avait au terme des guerres de religion des zones catholiques et des zones protestantes. Eh bien, l'édit de Nantes précise que les catholiques ont le droit d'établir leur culte partout. La Rochelle est une ville protestante, Nîmes est une ville protestante. Eh bien, à La Rochelle comme à Nîmes, les catholiques ont le droit d'établir leur culte. C'est un premier point qu'établit l'édit de Nantes. Quant aux protestants, qu'on appelle dans l'édit de Nantes ceux de la RPR, de la religion prétendue réformée, ces gens-là pourront établir leur culte ici et là dans le royaume selon des lieux qui vont être fixés précisément. Là où le culte était déjà établi et solidement, ils pourront continuer. Mais dans les autres lieux où il n'y avait pas de culte réformé, ils ne pourront pas ouvrir un nouveau lieu de culte. C'est ainsi que cet édit tente d'équilibrer les forces en présence en accordant beaucoup aux catholiques et en accordant peu aux réformés. Comme le dit Elisabeth Labrousse, cet édit de Nantes va être interprété au fil des années de façon de plus en plus restrictive pour les réformés, de plus en plus large pour les catholiques. Labrousse le dit, il va se refermer un peu comme un tombeau sur les réformés. À l'époque de Louis XIV, petit-fils de Henri IV, on va procéder à des mesures de plus en plus dures contre les réformés. Les brimades vont s'accélérer. Ça commence par des choses qui sont d'abord anodines. On interdit certains métiers aux réformés. Vous voyez, une femme, si elle est réformée, ne peut pas être sage-femme en particulier, parce qu'au cas où l'enfant qui naît viendrait à mourir aussitôt, il faut que la sage-femme puisse le baptiser. Or, si elle est réformée, son baptême ne sera pas valide. Et c'est ainsi qu'il y a des exclusions de certains métiers. Et on assiste à un grignotement juridique de plus en plus grand jusqu'à ce que dans les années 80, le roi déclenche des brimades militaires contre les réformés du royaume. Ces brimades militaires, c'est ce qu'on appelle à l'époque les dragonnades, du nom des dragons du roi, des cavaliers à cheval. Nous sommes à une époque où les militaires ne disposent pas de casernes. Avant le XIXe siècle, il n'y a pas de caserne dans l'histoire des armées et les militaires sont logés auprès de la population locale. On sait très bien que les militaires sont toujours dangereux, que ce soit ceux d'un autre pays ou ceux de son propre pays, parce qu'ils n'ont pas de subsistance. Et quand vous voyez arriver à proximité de votre village une brigade militaire avec des gens à cheval, à pied, qui risquent de s'arrêter par là pour la nuit, vous priez pour qu'ils aillent plutôt dans le village voisin que dans le vôtre. Parce que les militaires qui entrent dans le village sont des gens qui vont se considérer comme chez eux, qui vont arraisonner vos maisons, qui vont s'y établir, qui vont faire main basse sur les provisions. Il n'y a pas d'intendance qui les nourrisse, hein, donc c'est bien la population qui doit les nourrir et on ne peut pas résister aux militaires, et qui, dans le pire des cas, vont violenter les femmes et les enfants. C'est comme ça qu'on voit arriver des militaires. Et pendant les guerres, vous voyez, comme la guerre de 30 ans, il ne faut pas oublier que même si on est en France, si on voit arriver une armée française, ça peut être aussi dangereux pour les paysans qui sont sur place que l'armée allemande. Alors si on est en Alsace et qu'on voit un va-et-vient d'armées constant, c'est terrible pour une région qui va se faire complètement dévaster. Eh bien voilà qu'on envoie ici et là, dans les terres protestantes, en particulier en Poitou, en particulier dans le Midi, des militaires, avec comme consigne d'aller loger uniquement chez les protestants. Et ça a été un argument de conversion radicale lors d'une grande dragonnade qui a lieu dans le Midi. 3 à 4 000 protestants vont se convertir pour la bonne et simple raison qu'à partir du moment où les gens se convertissent, aussitôt les militaires ont l'ordre de quitter cette maison et d'aller s'établir chez un autre qui est resté protestant. Une fois qu'on a vu sa fille se faire violer, sa cave, se faire piller, son grenier, se faire brûler, eh bien, on préfère peut-être, si l'on voit arriver à nouveau des militaires, dire ben, « écoutez, non, je signe votre formule d'abjuration ». C'est ainsi qu'on rapporte au roi que de plus en plus de réformés se sont heureusement convertis à la vérité évangélique, à la vérité romaine. Et c'est ainsi que le roi va déclarer en 1685 que dorénavant, l'ensemble de la population du royaume est à nouveau devenue catholique et qu'ainsi l'édit de Nantes n'a plus de raison d'être. Donc interdiction de ces quelques accords qui avaient été passés entre son grand-père Henri IV et puis les protestants. Dans ce contexte-là, les protestants n'ont que le choix d'abjurer ou de vivre clandestinement ou de fuir à l'étranger, sachant que s'ils se font arrêter à la frontière, les femmes seront envoyées dans un couvent et les hommes seront envoyés en prison ou le plus souvent enchaînés aux galères de Louis XIV. C'est dans ce contexte-là que Pierre Bayle écrit son commentaire philosophique. Un homme, grand esprit, insaisissable, qui cherche souvent à se dissimuler dans ses textes, force nous est de penser que Pierre Bayle ne dit pas toujours exactement ce qu'il croit vraiment. Je vous renvoie au livre de Hubert Bost dans la collection des biographies Fayard que j'ai indiqué sur la feuille. Bayle va écrire un commentaire philosophique sur le texte biblique déjà mentionné tout à l'heure, le fameux « contraint-les d'entrée » de la parabole de l'Évangile de Luc au chapitre 14. Il intitule son commentaire « commentaire philosophique », non pas « commentaire exégétique ou théologique » parce qu'il ne nous dit pas comment il faut lire ce verset, mais il nous montre comment on ne doit pas le lire. Il va montrer toutes les contradictions qu'il y a dans la politique de ceux qui prennent ce verset au pied de la lettre pour contraindre à la foi. Pour Pierre Bayle, l'intolérance n'est pas une réponse à un désordre, elle est elle-même le désordre. Ça, c'est une belle formule que son éditeur Jean-Michel Gros a forgée dans son introduction. Pierre Bayle propose une interprétation rationnelle de l'Écriture. Alors, suivons-le quelques instants pour voir de quoi il retourne. Une interprétation de la Bible peut être vraie ou fausse. Jusqu'ici, je pense que chacun sera d'accord. Le problème, c'est de trouver le critère de vérité. Ce critère de vérité ne peut pas être lié à une institution particulière. Ce n'est pas parce que telle église me dit « voici ce que veut dire ce texte » qu'elle a forcément raison. Le critère d'autorité absolue ne peut pas se trouver dans une institution humaine. Pour Bayle, ce critère absolu doit être cherché dans une réalité supérieure qui est la lumière naturelle de l'esprit. Cette lumière naturelle, qui illumine la raison humaine, ne dépend d'aucun contexte culturel, d'aucun contexte religieux spécifique. Pour Bayle, il faut être cohérent. Si l'on condamne la religion réformée au titre qu'elle est une innovation, eh bien, on donne raison aux empereurs romains qui condamnaient le christianisme naissant parce que c'était une innovation. On ne peut pas d'un côté dire j'accepte l'innovation dans les premiers siècles du christianisme, mais je la refuse maintenant au XVIIe siècle. Et puis, on donne raison aussi à l'empereur de Chine, une figure mythique que Pierre Bayle convoque souvent dans ses pages, qui devrait donc persécuter les missionnaires. S'il faut condamner le protestantisme parce que c'est une innovation, ben, que dire du missionnaire jésuite qui débarque en Chine et qui veut annoncer l'évangile aux Chinois? C'est une innovation, donc il devrait être condamné lui aussi. C'est ainsi que Bayle va chercher un critère qui permette de sortir du cadre culturel ou religieux spécifique un critère que tous admettent, la raison naturelle au nom duquel il va juger de la santé de telle ou telle politique religieuse. Citation F, je voudrais qu'un homme qui veut connaître distinctement la lumière, que dit-il ici, la lumière naturelle par rapport à la morale, s'élevât au-dessus de son intérêt personnel et de la coutume de son pays, et se demandât en général une telle chose est-elle juste, et s'il s'agissait de l'introduire dans un pays où elle ne serait pas en usage, et où il serait libre de la prendre ou de ne la prendre pas, verrait-on, en l'examinant froidement, qu'elle est assez juste pour mériter d'être adoptée. Faisons abstraction, dit-il, de la tradition. Faisons abstraction des usages, des mentalités courantes, et posons-nous la question de savoir si une chose est bonne en tant que telle. Si oui, il faut l'accepter partout. Sinon, il faut la refuser partout. C'est ainsi que, si l'on admet qu'il est bon d'envoyer des missionnaires à l'étranger pour leur annoncer la foi que l'on croit vraie, si cela est vrai, et bien il le croit, il faut aussi, dit-il, accepter que les Mahométans envoient chez nous, en France, des missionnaires pour prêcher leur foi. Et nous allons discuter avec eux, argument contre argument. Leur foi est fausse, dit Pierre Bayle, mais ils ont le droit de venir la présenter. Et à l'inverse, nous revendiquons le droit d'aller présenter le christianisme chez eux. C'est ainsi que, contrairement à Locke, Bayle n'admettrait pas que le protestantisme puisse exclure les autres religions. Dernière citation. « Si l'on me demande ce que je pense de certains États protestants qui ne souffrent qu'une religion, je réponds que s'ils le font par la seule vue de la fausseté qu'ils croient être dans les dogmes des autres religions, ils ont tort. La fausseté doit-elle être combattue par d'autres armes que par celle de la vérité? Combattre des erreurs à coups de bâton, n'est-ce pas la même absurdité que de se battre contre des bastions avec des harangues et des syllogismes? Bayle ne plaide pas pour l'égalité fondamentale des croyances. Il ne dit pas, ben voilà, peu importe ce que vous croyez, ce qui compte, c'est l'authenticité, la sincérité de votre foi. Toutes les religions ne se valent pas. Et il y a pour lui des croyances qui sont mauvaises, en particulier la croyance catholique romaine. Mais vous voyez que son propos n'est pas là. Il plaide pour le droit à ce qu'il appelle la conscience errante. Errante au sens de errare latin. La conscience a le droit de se tromper. En d'autres termes, Bayle plaide en matière religieuse pour le droit à l'erreur. Et s'il y a erreur, il faut rectification, mais cette rectification ne pourra venir que par la raison, jamais par la violence, jamais par les dragonnades. Le droit à la conscience errante. Cette position-là fera que Bayle ira bien plus loin qu'en Locke ou en Castelion, parce que pour lui, si l'athée veut défendre son athéisme, il se trompe sans doute, c'est ce que croit Bayle. Il se trompe sans doute, mais il a le droit de se tromper. Et c'est par des arguments que je dois lui montrer qu'il se trompe. Aucune violence ne peut être exercée fût-ce contre l'athée. Avec un texte comme celui de Bayle, qu'il fait paraître sous un pseudonyme au moment de la révocation de l'édit de Nantes et qui n'aura pas beaucoup de succès auprès de la cour de Versailles, avec un texte comme celui-ci, vous voyez que le combat pour la tolérance fait un pas en avant. J'aimerais terminer en 2 minutes en évoquant les limites de la tolérance. Nous sommes à Paris en été 1789. Au mois d'août se réunit l'Assemblée nationale, celle qui va proclamer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est un mois après la prise de la Bastille et il va y avoir cette promulgation officielle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutes les classes du royaume, de l'ancien royaume, sont représentées, tous les milieux sont représentés. Et il y a même là un pasteur. Depuis 2 ans, les protestants avaient de nouveau le droit d'établir leur culte en France. Louis XVI, en 1787, avait signé un édit de tolérance, encore une fois tolérance, pour tolérer les protestants en France. Eh bien, au moment de la promulgation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce pasteur, qui s'appelle Rabaut Saint-Étienne, c'est tout le nom de famille, Rabaut Saint-Étienne, son prénom c'est Jean-Paul. Rabaut Saint-Étienne dira « Messieurs, ce n'est pas la tolérance que je réclame, c'est la liberté. La tolérance, continue Rabaut Saint-Étienne, je demande qu'il soit proscrit à son tour ce mot injuste qui ne nous présente que comme des citoyens dignes de pitié, comme des coupables auxquels on pardonne. Très forte parole, nous ne voulons pas de votre tolérance, nous voulons la liberté. La liberté de culte, la liberté religieuse, et c'est tout autre chose que de réclamer la tolérance. Comme quoi, nous le voyons bien, si l'alternative est entre persécution et tolérance, il faut sans aucun doute choisir la tolérance. Mais si l'alternative est au contraire entre tolérance ou liberté, il faut surtout choisir la liberté.